Eugene Debs, il parlait à la classe ouvrière et au nom de la classe ouvrière. L'article ci-dessous est traduit du périodique Class Struggle, numéro 83, août-octobre 2014, publié par l'organisation trotskiste américaine The Spark. Eugene Debs, né le 5 novembre 1855 à Terre Haute dans l'Indiana, mort le 20 octobre 1926 à Elmhurst dans l'Illinois, a été toute sa vie un militant de la classe ouvrière. D'abord syndicaliste, puis socialiste, toujours aux côtés des grévistes, il a été 5 fois candidat à l'élection présidentielle pour le Parti socialiste. Il a utilisé toutes les campagnes électorales à convaincre les travailleurs de la nécessité et de la possibilité du socialisme. Ses discours contre la Première Guerre mondiale et ses exhortations à mener la guerre de classe lui ont valu la prison. Contrairement à bien des dirigeants socialistes, il est resté fidèle à ses idées et a joué un rôle important dans le mouvement ouvrier américain. Le 14 septembre 1918, Eugene Debs s'adressa à la cour en ces termes. Citation. Tant qu'il y a une classe défavorisée, j'en suis. Tant qu'il y a des criminels, j'en suis. Et tant qu'il y a un homme en prison, je ne suis pas libre. Dans la lutte incessante entre ceux qui produisent et leurs exploiteurs, j'ai essayé de servir ceux parmi lesquels je suis né, dont je veux partager le sort jusqu'à la fin de mes jours. Ce matin, je pense aux hommes des ateliers et des usines. Je pense aux femmes qui, pour un salaire dérisoire, sont contraintes de passer leur vie à travailler. Aux petits-enfants qui, dans ce système, sont privés de leur enfance. Je n'ai jamais mieux compris que maintenant la grande lutte entre la puissance des rapaces d'une part et de l'autre les armées de la liberté. Je vois l'aube d'un jour meilleur pour l'humanité. Le peuple s'éveille. Le moment venu, il s'imposera. Fin de citation. Debs venait, en vertu de la loi sur l'espionnage, d'être reconnu coupable d'obstruction à la campagne de recrutement de la Première Guerre mondiale. Il était face à la cour pour entendre la sentence. Comme pendant le procès, il refusa de revenir sur sa condamnation du système capitaliste responsable de la guerre. Au procès, Debs ne présenta aucun témoin, ne contesta pas la thèse de l'accusation. Citation. Je n'ai pas un tempérament à nier la vérité. J'avoue être opposé à la forme actuelle de gouvernement. J'avoue être opposé au système social actuel. Je fais mon possible depuis de nombreuses années pour déclencher le mouvement qui en finira avec l'oppression du plus grand nombre par une classe relativement peu nombreuse et qui établira dans ce pays une démocratie ouvrière et sociale. Fin de citation. Il se situait dans le même camp que les bolcheviks, le camp de ceux qui venaient de diriger la révolution de la classe ouvrière en Russie. Citation. Il se peut que les bolcheviks, tant méprisés, finissent par échouer, mais laissez-moi vous dire qu'ils ont écrit un chapitre d'une histoire glorieuse. Cela sera porté à jamais à leur crédit. Fin de citation. Il défendait tous ceux qui, socialistes, anarchistes, membres des Industrial Workers of the World, travailleurs industriels du monde, IWW, syndicalistes, pacifistes, avaient été traduits en justice pour opposition à la guerre, fiers de partager leur sort en prison. Et il répétait qu'il ne changerait pas un mot de ses déclarations contre la guerre, et que le Parti socialiste ne le devrait pas non plus. Il continuait à dire aux gens, en particulier aux travailleurs de tous les pays, citation, « Arrêtez d'aller à la guerre, arrêtez de vous entretuer pour le profit et la gloire des classes dirigeantes. » Fin de citation. Il fut condamné à 10 ans d'incarcération et jeté dans une prison fédérale officiellement pour un discours prononcé à Canton, Ohio, en juin 1918, mais sans aucun doute aussi pour avoir utilisé son énorme prestige auprès des travailleurs et des agriculteurs dans une campagne de réunion dans tout le pays, où il prononça des discours non seulement pour dénoncer la guerre, mais surtout pour appeler les travailleurs à s'enrôler dans la guerre des opprimés contre leurs oppresseurs. Plus tôt, dans l'année 1918, lorsque la presse publia l'information que Debs était sur le point de soutenir la guerre, comme un certain nombre d'autres socialistes et la plupart des dirigeants syndicaux l'ont fait, il affirma, citation, « Il y a des années, j'ai déclaré que la seule guerre dans laquelle je m'engagerais serait celle des travailleurs du monde contre les exploiteurs du monde. Je déclare en outre que la classe ouvrière n'a aucun intérêt dans les guerres de conquête et de rapine déclarées et menées par les classes dirigeantes des différents pays, les unes contre les autres. C'est ma position aujourd'hui. » Fin de citation. La position de Debs pendant le procès était en harmonie avec toute sa vie. Il se considérait comme faisant partie de ce qu'il appelait la, entre guillemets, classe inférieure. Il parlait comme un travailleur. Et durant sa vie adulte, quand un enjeu devenait clair pour lui, il en tirait les conséquences. Il ne se dérobait pas devant une lutte nécessaire, et quand il voyait les travailleurs engagés dans un combat, il était toujours de leur côté. Certes, il n'est pas né socialiste révolutionnaire. Comme les travailleurs d'aujourd'hui, il a grandi dans un pays où il n'y avait pas de parti ouvrier organisé, ni de mouvement socialiste à proprement parler, ni de véritable tradition. Mais dès le début, il chercha toujours ce qui lui sembla être la meilleure façon pour les travailleurs d'organiser leur défense dans un système dominé par la richesse. Et ce qui est le plus important, quand il s'était engagé dans une impasse, il savait le reconnaître et passer à une vision plus large des problèmes, de plus en plus fondée sur sa compréhension que la classe ouvrière avait le pouvoir de détruire la vieille société capitaliste corrompue à l'origine des problèmes et était capable de construire une société nouvelle. D'employé d'une mutuelle à fondateur du Parti socialiste. Renvoyé à 18 ans des chemins de fer, Debs fut rapidement engagé par l'une des fraternités des chemins de fer, la fraternité des chauffeurs de locomotives, dont l'activité principale consistait à organiser une assurance vie bon marché pour les chauffeurs, ce qui illustre le danger mortel du travail dans les chemins de fer à cette époque. Debs enregistrait les versements des travailleurs auprès de l'assurance et traitait les demandes déposées par les veuves dont les maris étaient morts au travail. Au début, en accord avec les politiques conservatrices des fraternités des chemins de fer, il adopte leur position selon laquelle les différends doivent être réglés par la, entre guillemets, raison et le compromis, et non par la grève, qu'il dénonçait comme, entre guillemets, anarchie et révolution. À la même époque, Debs, candidat démocrate, remporta une victoire et devint deux fois chef des services municipaux de Terre Haute, Indiana, puis membre de l'Assemblée législative de l'État de l'Indiana. Il arriva au Parlement avec des propositions de loi rédigées sur l'indemnisation des travailleurs victimes d'accidents du travail. Ces propositions ne furent jamais soumises au vote. À l'Assemblée, il se rangea aux côtés des Républicains lorsqu'ils présentèrent un projet de loi abolissant toute distinction de race et de couleur dans les lois de l'Indiana. Le projet fut repoussé. Il se rejoignit à ceux qui voulaient légaliser le vote des femmes dans l'Indiana. Ils perdirent. Il décida alors de ne plus se représenter. Avec d'autres à cette époque, Debs commença à reconsidérer le postulat que les fraternités et autres syndicats de métiers ne devaient être que des organismes d'assurance. En fait, ils étaient désertés par les travailleurs qui démarraient une vague de grève. Alors que la révolte des travailleurs grandissait, Debs commença à dénoncer les entreprises responsables de la violence liée aux attaques contre les grèves. Mais il conserva encore l'illusion qu'il pourrait y avoir sous le capitalisme, citation, un salaire équitable pour une journée de travail équitable, fin de citation. Qu'il pourrait y avoir une sorte de, entre guillemets, compromis entre les chemins de fer et les cheminots qui servirait leurs intérêts communs. Il croyait toujours qu'avec de, entre guillemets, l'intelligence et de la, entre guillemets, raison des deux côtés, les grèves pouvaient être évitées. Mais ses illusions furent ébranlées. Quand Debs vit que les chemins de fer faisaient pression pour diminuer les salaires, il commença à se joindre au combat des travailleurs et déclara. Citation. La grève est l'arme des opprimés, des hommes en état de comprendre la justice, d'avoir le courage de s'opposer à l'injustice et de lutter pour leurs principes. Fin de citation. Quand, les unes après les autres, les grèves des confréries ou d'autres syndicats de métiers des chemins de fer subirent la répression violente et les attaques des briseurs de grève, y compris des membres d'autres confréries, Debs se lança à corps perdu dans le regroupement des différentes confréries des chemins de fer et syndicats de métiers en une seule fédération des cheminots. En but à la réticence des dirigeants des syndicats de métiers devant une telle proposition, au moment même où les chemins de fer combattaient les travailleurs avec les méthodes les plus vicieuses, il tenta, avec d'autres, de rassembler tous les cheminots inorganisés dans un grand syndicat industriel, le syndicat américain des chemins de fer, American Railway Union, ARU. Debs partageait l'idée de beaucoup de ses travailleurs, qu'un syndicat unique de tous les cheminots leur donnerait la possibilité de bloquer les chemins de fer, convaincant ainsi les compagnies qu'elles n'avaient pas d'autre choix que le compromis avec les travailleurs. Les événements prouvèrent bientôt le contraire. Les travailleurs de la région de Chicago, durement frappés par les réductions de salaire, furent contraints à une grève chez Pullman, une entreprise qui fabriquait des wagons pour les chemins de fer. Les militants du syndicat américain des chemins de fer, ARU, nouvellement formés, réunis dans un congrès de fondation, voulaient organiser un boycott de tous les trains comprenant les wagons Pullman, à la fois pour soutenir les travailleurs Pullman en grève et en même temps pour construire les ARU. Debs, en désaccord avec la proposition, insista sur le fait que les ARU n'étaient pas encore assez forts, mais comme il ne put convaincre les délégués, il se rallia à la lutte. La grève Pullman de 1894 et le boycott furent parmi les luttes les plus acharnées de cette période. Elle s'étendit rapidement et bloqua une bonne partie du transport par chemin de fer, d'abord dans la région de Chicago, un centre ferroviaire, puis dans bien d'autres régions du pays. Le gouvernement fédéral, présidé par le démocrate Cleveland, envoyèrent les troupes à Chicago, les mettant à la disposition des chemins de fer qui usèrent massivement de la violence contre les grévistes et ceux qui rejoignirent le boycott par solidarité. 30 personnes furent tuées, deux fois plus blessées et plus de 700 arrêtées. Les dirigeants de la plupart des syndicats de métiers s'opposèrent à la grève et même la dénoncèrent et demandèrent à leurs membres de travailler. 3 semaines après le début de la grève, le gouvernement émit contre Debs et d'autres dirigeants du mouvement une injonction exigeant que le syndicat américain de chemin de fer cesse la grève. Ils refusèrent et finirent dans la prison du comté de Cook, à Chicago, où Debs, pour la première fois, fut témoin des conditions lamentables imposées aux détenus. L'incarcération de tous les dirigeants de la grève désorganisa les travailleurs, et cela, combiné avec les violentes attaques et dénonciations des dirigeants d'autres syndicats de cheminots, contribua à l'effritement de la grève. Les travailleurs durent retourner chez Pullman reprendre le travail. Un quart ne revint pas, et la plupart des travailleurs actifs pendant la grève se retrouvèrent sur une liste noire et interdits d'embauche dans les chemins de fer. La grève fit revenir Debs sur plusieurs de ses certitudes politiques. Démocrate jusqu'alors 3 fois en campagne pour Grover Cleveland, il vit ce dernier utiliser la présidence pour envoyer des troupes et employer la violence et la prison pour casser la grève. Debs se déclara alors populiste. Citation. Je suis favorable à l'extinction des deux vieux partis afin qu'ils ne reviennent jamais au pouvoir. J'ai été un démocrate toute ma vie et j'ai honte de l'admettre. Je veux que chacun d'entre vous se rende aux urnes et vote pour le camp populiste. Fin de citation. À la fin de l'année, il fut à nouveau mis en prison pour y purger une peine de 6 mois pour violation de l'injonction. Il y a longtemps eu une sorte de mythe à propos de ces 6 mois. Debs serait entré en prison démocrate et en serait sorti socialiste. Il n'aurait jamais changé d'un iota sa position politique par la suite, comme si quelques visites de socialistes à sa petite cellule et ses 6 mois de solitude l'avaient transformé. Quoi qu'il soit arrivé dans cette cellule, il est clair que la brutalité de la société capitaliste le frappa pendant la grève. Comme il l'avait fait auparavant, et a continué à le faire plus tard, il chercha à s'évader des limites imposées à son activité par ses propres positions politiques. C'est tout d'abord à l'honneur de Debs d'avoir pu le faire, mais c'est aussi un triste constat de l'état lamentable du mouvement ouvrier dans ce pays qu'il ait fallu ses coups successifs pour qu'il en vienne enfin aux positions qu'il a prises. Il y avait peu de tradition de diffusion des idées socialistes dans la classe ouvrière américaine. Dans la mesure où elles existaient, les idées socialistes ne circulaient souvent que chez les immigrants récents en provenance d'Europe, notamment d'Allemagne. Et cette tradition était enfermée dans un ghetto linguistique, séparé de la vie du reste de la classe ouvrière. Debs finit par se familiariser avec les idées de Marx et d'Engels et commença à les étudier. Il ne suivit pas une ligne droite. En 1895, avec plusieurs autres anciens membres du syndicat américain des chemins de fer, il signa une déclaration en faveur de la citation, « propriété collective des moyens de production et de distribution », fin de citation, proposant d'établir une organisation politique de la classe ouvrière sur la base de cet objectif. Mais en 1896, il revint dans le train du Parti démocrate quand son candidat William Jennings Bryan absorba non seulement une partie de la plateforme politique des populistes, en particulier le « free silver », la libre frappe de la monnaie, et leur aversion pour l'étalon or, mais aussi beaucoup de leurs militants. Mais l'année suivante, en 1897, Debs déclara, citation, la question est celle de l'opposition entre le socialisme et le capitalisme. Je suis pour le socialisme parce que je suis pour l'humanité. La malédiction du règne de l'or dure depuis assez longtemps. L'argent ne peut constituer le fondement d'une civilisation. Le temps est venu de régénérer la société. Nous sommes à la veille d'un bouleversement universel. Fin de citation. Même si son langage ressemblait plutôt à celui des prédicateurs ambulants qui parcouraient le pays à la fin du XIXe siècle, Eugene Debs commença à comprendre que la classe ouvrière devait s'organiser politiquement et que le problème n'était pas de réformer le capitalisme, mais d'en finir avec lui et de le remplacer. Avec quelques militants partis de l'ARU et d'autres, Debs contribua à former l'ancêtre du Parti socialiste, appelé Social Democracy d'Amérique, Social Democracy of America, qui décida rapidement de fonder une communauté coopérative dans l'un des États de l'Ouest, offrant aux travailleurs la perspective de devenir les pionniers d'un genre précurseur de communauté. Peu acceptèrent l'offre. Beaucoup de ces militants, dont Debs, vont ensuite former d'abord le Parti social-démocrate, puis le Parti socialiste. En 1903, en réponse à une proposition de construction d'une organisation composée de citation, « partisans de l'impôt unique, de socialistes et de syndicalistes antisocialistes », fin de citation, Debs put dire, citation, je suis depuis longtemps déterminé à m'en tenir à la question principale et à rester sur la route principale, quelque séduisant que puissent apparaître les chemins de traverse. Fin de citation. Le reste de sa vie, Debs resta fidèle à cette question principale, ce qu'il appelait la, entre guillemets, pure question de classe. Elle examina tous les problèmes, citation, en termes de classe ouvrière contre classe capitaliste. Fin de citation. Toujours engagée en faveur d'une organisation industrielle de la classe ouvrière contre le corporatisme de la principale fédération, l'American Federation of Labor, the same old gumpers, Debs fut à l'origine des IWW. Plus tard, il les quitta discrètement, en désaccord avec leur insistance à proclamer que la classe ouvrière n'a pas besoin de s'organiser politiquement. Mais il défendit toujours l'IWW contre les nombreux coups qui lui furent portés. Propagandiste du socialisme. Le Parti socialiste, dans la formation duquel il a joué un rôle, a offert à Debs une tribune. Il commença à parcourir systématiquement le pays, présentant les idées du socialisme aux travailleurs et aux agriculteurs des petites villes du Midwest, puis de la plus grande partie du pays. Debs se réalisa pleinement dans ce rôle. Il s'adressait à des gens avec qui il avait grandi. Il savait comment les toucher. Mais il voulait aussi les éduquer, leur faire comprendre le genre de société qu'ils pourraient construire. Une société socialiste. Il voulait les rendre conscients de leur propre pouvoir. Ces prises de parole n'étaient pas de petits discours express, quelques minutes ici, quelques minutes là-bas. Elles duraient souvent 2 heures ou plus, au cours desquelles il développait la notion de société socialiste pour des travailleurs entendant parler de socialisme pour la première fois. Il prenait la parole partout, dehors, dans les champs, sous les chapiteaux, dans des campements d'une semaine, où les fermiers et les gens des petites villes installaient leurs tentes pour l'écouter. Il recrutait en masse au Parti socialiste des gens ordinaires, des travailleurs et des paysans pauvres. De leur côté, ces personnes trouvaient un leader politique qui parlait à la classe ouvrière et pour elle, de son point de vue, de sa place dans la société capitaliste et de sa capacité à créer une nouvelle société. Il se rendit dans des grèves dures en essayant de soutenir le moral des travailleurs attaqués. Il voyait clair et disait qu'il y avait une guerre en cours, une guerre des travailleurs du monde contre les exploiteurs du monde. En 1914, quand une milice privée attaqua un camp de travailleurs en grève dans une mine appartenant à Rockefeller à Ludlow, Colorado, tuant 13 personnes, tous des femmes et des enfants, il appela les mineurs à créer une, ouvrez les guillemets, caisse de défense armée à même de fournir à chaque membre la dernière carabine de gros calibre, identique à celle utilisée par les hommes de main des patrons, et 500 cartouches. Vous ne devriez pas avoir plus de scrupules à les tuer, les tueurs à gages des entreprises, que s'ils étaient autant de chiens enragés ou de serpents à sonnette menaçant vos maisons et votre communauté. Fermez les guillemets. Il ajouta que sa déclaration avait été faite, entre guillemets, sciemment, et qu'il était, ouvrez les guillemets, responsable de chacun de ces termes. Nous sommes pour la paix et nous sommes irrémédiablement opposés à la violence et à l'effusion de sang quand ils peuvent être évités par tous les moyens possibles en dehors de l'humiliation complète et de l'abaissement de soi-même. Mais quand la loi échoue et devient en fait le rempart de la criminalité et de l'oppression, alors un appel à la force est non seulement moralement justifié, mais devient un devoir patriotique. Fermez les guillemets. Il prit la parole dans les meetings pour la défense des grévistes arrêtés ou pour la défense de membres de l'IWW et de militants politiques de plus en plus souvent victimes de la violence de milices privées. Lorsque le président Woodrow Wilson envoya les Marines américains au Mexique en 1914, Debs dénonça l'action qui ne visait qu'à, ouvrez les guillemets, protéger la propriété mal acquise de la Standard Oil Company. Les citoyens américains qui choisissent de vivre et d'investir leur argent dans les pays étrangers doivent le faire à leur propre risque et pas au risque de la vie de nos soldats. Fermez les guillemets. Il devint l'homme politique le plus connu du pays parmi les ouvriers et les paysans pauvres. Il était normal que le Parti socialiste le désigne comme candidat à la présidence en 1904, 1908 et 1912. Dans le cas de Debs, les campagnes électorales étaient peu différentes de ses autres campagnes. Il formait la classe ouvrière à la nécessité et à la possibilité du socialisme. En 1916, il refusa d'être candidat. Certains autres dirigeants du Parti socialiste, inquiets de l'agitation de Debs contre la guerre, furent soulagés. La guerre, qui avait commencé en Europe en 1914, devenait de plus en plus une réalité aux États-Unis, et une campagne dite de « entre guillemets préparation » se développait pour préparer la population à accepter l'entrée en guerre du pays. Debs commença à se pencher sur le redoublement de la propagande belliciste. Comme à son habitude, il relia la guerre à la guerre de classe engagée dans le pays. Citation. Je ne vois pas de flibustier étranger qui pourrait plus dépouiller les travailleurs américains que ne le font actuellement les Rockefeller et leurs copains pirates. Les travailleurs n'ont pas de patrie à défendre. Elle appartient aux capitalistes et aux plutocrates. À eux de s'inquiéter pour sa défense, et puisque ce sont eux seuls qui déclarent les guerres, qu'ils y aillent eux-mêmes, et se massacrent les uns les autres sur le champ de bataille. Fin de citation. En 1916, il fut le candidat au Congrès à Terre Haute, dans l'Indiana. Pendant sa campagne, on lui demanda s'il était opposé à toutes les guerres. Debs n'était pas, comme beaucoup au sein du Parti socialiste, homme à éluder la question. Il déclara, citation, « Je ne suis pas un soldat capitaliste, je suis un révolutionnaire prolétarien. Je suis opposé à toutes les guerres, sauf une, pour laquelle je suis engagé cœur et âme. C'est la guerre mondiale pour la révolution sociale. Dans cette guerre, je suis prêt à combattre autant que la classe dirigeante le rendra nécessaire, jusqu'aux barricades. » Fin de citation. Comme les États-Unis s'apprêtaient à engager leurs troupes dans la Première Guerre mondiale, guerre de partage du monde, le Parti socialiste commença à se diviser sur la question. Plusieurs de ses dirigeants les plus en vue, autres que Debs, tergiversèrent sur la question du soutien à la guerre. La plupart des syndicats se rallièrent au soutien de l'entrée des États-Unis dans la guerre et le gouvernement organisa une campagne intensive d'arrestation, d'intimidation et de violences extrajudiciaires contre les syndicalistes qui ne le firent pas. Les membres de l'IWW furent particulièrement visés. Les journaux radicaux disparurent, rapidement supprimés après le retrait de leurs privilèges postaux. Des éditeurs furent mis en prison sous des accusations de, entre guillemets, incitation à la sédition. Des milices et des troupes furent lancées dans une campagne pour briser les grèves. C'était une attaque tous azimuts. L'un après l'autre, les radicaux connus furent jetés en prison. Dans un premier temps, Debs ne fut pas touché, comme si les autorités avaient craint des conséquences. Il continua de mener campagne contre la guerre, la reliant à ce que la classe ouvrière avait à faire dans ces circonstances pour se défendre. Quand il fut finalement arrêté, il y eut un énorme tollé. Dans presque tous ses discours, il demandait aux travailleurs qui continuaient à venir l'écouter de prendre leurs responsabilités vis-à-vis d'eux-mêmes et de leur propre classe. Dans le discours de Canton, dans l'Ohio, après lequel il fut arrêté, il appela le public à rejoindre le Parti socialiste en ces termes, citation, « Ils vous ont toujours enseigné à croire que c'est votre devoir patriotique d'aller à la guerre et d'être abattu sous leurs ordres. Mais dans toute l'histoire du monde, vous, le peuple, n'avez jamais eu voix au chapitre lors des déclarations de guerre. Et aussi étrange que cela paraisse, aucune guerre, dans aucun pays, dans aucune époque, n'a jamais été déclarée par le peuple. Et je voudrais souligner ici le fait, et on ne le dira jamais assez, que la classe ouvrière qui combat dans toutes les batailles, la classe ouvrière qui fait les sacrifices suprêmes, la classe ouvrière qui verse à flot son sang et fournit les cadavres, n'a jamais encore eu son mot à dire dans les déclarations de guerre ou les traités de paix. C'est la classe dirigeante qui a toujours fait les deux. Elle seule déclare la guerre et elle seule fait la paix. Ouvrez les guillemets. Vous n'avez pas à savoir pourquoi, vous n'avez qu'à la faire et à mourir. Fermez les guillemets. C'est leur credo. Et nous, les travailleurs conscients de cette nation, nous ne sommes pas d'accord. Vous devez en particulier maintenant savoir que vous méritez mieux que d'être des esclaves et de la chair à canon. Vous devez savoir que vous n'avez pas été créé pour travailler, produire et vous appauvrir dans le seul but d'enrichir un exploiteur oisif. Vous devez savoir que vous avez un esprit à améliorer, une âme à développer et une humanité à soutenir. Vous devez savoir qu'il est de votre devoir de vous élever au-dessus du niveau animal, d'avoir des connaissances en littérature, en sciences et dans les arts. Vous devez savoir que vous êtes au seuil d'un monde nouveau. Vous devez entrer en contact avec vos camarades et collègues et prendre conscience de vos intérêts, de vos pouvoirs et de vos capacités en tant que classe. Vous devez savoir que vous appartenez à la grande majorité de l'humanité. Vous devez savoir que, tant que vous êtes ignorant, tant que vous êtes indifférent, tant que vous êtes apathique, inorganisé et satisfait, vous resterez là où vous êtes. Vous serez exploité, vous serez humilié et vous aurez à mendier un travail. En paiement de votre labeur servile, vous recevrez juste de quoi rester en état de travailler et vous serez toisés avec dédain et mépris par les parasites mêmes qui vivent et se prélassent grâce à votre sueur et à votre travail mal rémunéré. Il y a quelque chose de splendide, quelque chose de réconfortant et de stimulant dans l'élan du cœur pour être fidèle à soi-même et faire de son mieux, surtout dans un moment crucial de votre vie. Vous êtes le creuset aujourd'hui, camarade socialiste. Vous allez subir l'épreuve du feu, jusqu'à quel point nul ne le sait. Si vous êtes faibles et timorés, vous serez perdus pour le mouvement socialiste. Nous serons obligés de vous dire adieu. Vous n'êtes pas de l'étoffe dont sont faits les révolutionnaires. Nous sommes désolés pour vous, sauf si vous avez la chance d'être un, entre guillemets, intellectuel. Les soi-disant intellectuels, beaucoup d'entre eux sont déjà partis. Ni perte de votre côté, ni gain de l'autre. Entrez dans le Parti socialiste et prenez votre place dans ses rangs. Aidez à insuffler du courage aux faibles et à donner de la force aux chancelants. Et faites votre part pour accélérer la venue d'un jour plus lumineux et meilleur pour nous tous. Ne vous inquiétez pas de l'accusation de trahison envers vos maîtres, mais soyez préoccupés par la trahison envers vous-même. En étant fidèles à vous-même, vous ne serez traître à aucune bonne cause sur terre. Oui, Le temps venu, nous prendrons le pouvoir dans ce pays et partout dans le monde. Nous détruirons toutes les institutions esclavagistes et dégradantes des capitalistes et en recréerons d'autres libératrices et humaines. Le monde change tous les jours sous nos yeux. C'est le crépuscule du capitalisme, c'est l'aube du socialisme. Il est de notre devoir de construire la nouvelle nation et la République libre. Nous avons besoin de bâtisseurs pour l'industrie et pour la société. Nous, socialistes, sommes les bâtisseurs du monde magnifique à venir. Nous sommes tous engagés à faire notre part. Nous vous invitons, nous vous sommons cet après-midi, au nom de votre propre humanité, de nous rejoindre et faire votre part. » Fin de citation. Il n'y avait rien d'inhabituel dans ce discours. C'était le discours de 2 heures que Debs avait fait pendant des années parcourant le pays parlant pour le socialisme. Mais cette fois, il était également lié à la question de la guerre. Il demandait toujours à son auditoire de voir la situation telle qu'elle était vraiment, mais souvent d'une manière ironique, humoristique. Quand un perturbateur, lors de sa campagne de 1908, s'écria que voter pour Debs, c'était gaspiller son vote, il répondit, citation, « C'est ça, ne votez pas pour la liberté, vous risquez de ne pas l'obtenir. Votez pour l'esclavage, rien de plus facile à obtenir. » Fin de citation. En campagne pour le socialisme, Debs fut 5 fois candidat à la présidence des États-Unis, dont la dernière alors qu'il était en prison après ce discours. Chaque fois, il a fait campagne sur la base de ce qu'il a exprimé lors de la campagne de 1908. Citation. Le Parti socialiste est dans la course pour éduquer les ouvriers et il ne veut pas d'une seule voix qui ne soit pas un vote pour le socialisme. Fin de citation. En 1911, il a accusé le Parti socialiste de comprendre, ouvrez les guillemets, bon nombre de membres qui considèrent qu'obtenir des voix est d'une importance capitale, peu importe par quelle méthode elles sont obtenues, ce qui les conduit à proposer des mesures et à présenter des arguments qui ne sont pas du tout compatibles avec l'esprit rigoureux et sans concession d'un parti révolutionnaire. C'est une trahison de considérer la plateforme socialiste comme une machine à gagner des voix plutôt que comme un moyen d'éducation. Fin de citation. Telle a été sa position jusqu'à la fin de sa vie, certes. Des aspects importants de la tradition révolutionnaire ont dépassé Eugene Debs. Parmi les plus importants, peut-être, figure la stratégie d'organisation d'un parti révolutionnaire. Il a vu les problèmes politiques qui se développaient à l'intérieur du Parti socialiste, il les a éludés sans jeter son poids dans la bataille pour corriger sa politique. Mais il aura toujours une place spéciale dans l'histoire du mouvement ouvrier. Il a apporté le socialisme, la politique de la classe ouvrière, à la classe ouvrière américaine, jusque dans tous ses discours électoraux. Et à chaque moment clé, chaque grève, chaque combat, chaque attaque de militants par le gouvernement, l'invasion américaine du Mexique, la poussée de l'impérialisme américain pour entrer dans la Première Guerre mondiale pour sa part du butin, il est entré dans la lutte aux côtés de la classe ouvrière. Il a pris ses décisions en fonction des intérêts de la classe ouvrière.